RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis, le temps de s'installer en studio. On parle de la générosité des Français ce matin. Les dons aux associations et fondations seraient en hausse. Alors ce sont des tendances à relativiser. On va regarder encore tout ça plus près et puis plus concrètement, on va voir comment exercer cette générosité. Et vous avez bien sûr la parole pour réagir, pour peut-être aussi poser vos questions. Et vous, alors, comment est-ce que vous exercez votre générosité? Comment donnez-vous aux associations? Est-ce que vous avez pensé à faire un leg, par exemple? Est-ce que tous ces mécanismes en termes de transmission ou de fiscalité vous semblent complexes et vous freinent dans vos décisions? Comment vous aimeriez être aidé aussi dans cette décision? On vous accueille au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vos messages à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Jusqu'à 11h, « Je pense, donc j'agis » sur RCF.
On reçoit trois invités dans cette seconde partie d'émission. Bonjour Maître Alexis Lehuchet.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints en studio.
Merci à vous pour votre invitation.
Avec grand plaisir. Vous êtes notaire associé et membre de la Chambre des notaires du Rhône. Vous nous parlerez un petit peu de vos missions. Vous faites beaucoup de choses. On peut facilement imaginer. Bonjour Maître Jean-Baptiste Autric.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Avocat fiscaliste associé au cabinet Del Sol, c'est à Lyon. Vous êtes spécialiste en droit des associations et co-responsable du département organisation non lucrative et entrepreneuriat social. Voilà, c'est ça?
Tout à fait.
Bon, je précise que c'est votre première radio à tous les deux, hein, je crois.
Exactement.
Voilà, donc on va être assez gentil avec vous, j'espère.
C'est gentil.
Bonjour Marc Soulet.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Alors c'est pas votre première radio puisque vous êtes le président d'RCF. On aura l'occasion ensemble, Marc, de parler aussi de la fondation RCF. On l'a évoqué rapidement dans la première partie de cette émission. Bah, tiens, justement, pour faire un petit lien entre les deux parties, quel regard vous, Marc, vous portez sur cette générosité des Français?
On va beaucoup parler là, dans cette deuxième partie de RCF comme objet de générosité, mais ce que je voudrais dire, c'est que RCF contribue aussi et aide à la générosité, parce que nous sommes une voix atypique dans le paysage médiatique, une voix qui met en avant les initiatives positives, les initiatives fraternelles. Et c'est vraiment notre rôle de média utile qui essaie de créer du lien, Et de rendre la chose joyeuse, parce que donner, c'est joyeux, je crois qu'il faut le rappeler, parce qu'en donnant, on se donne, on s'ouvre à l'autre, aux réalités du monde, et puis on essaie de le rendre un peu plus fraternel. Donc je crois qu'il est important de rappeler que RCF, dans le paysage médiatique, est cette voix particulière qui met en avant ces initiatives positives. Voilà, donc nous sommes un objet de générosité, mais nous la créons aussi, par notre antenne et par nos programmes. Hier, vous vous en souvenez, Melchior, un auditeur qui, sur la matinale du jeudi du don, a eu cette formule absolument magique. Et il a dit « La grâce est gratuite, mais la radio a un coût ». Voilà, donc c'est un bon résumé en disant que finalement, le message que nous essayons de promouvoir, il nous a été donné, il est gratuit. Mais le canal pour que ça arrive auprès de nos auditeurs, lui, il a un coût humain et matériel. Voilà.
Et on va voir comment justement exercer cette générosité à RCF en faisant par exemple un don. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir évoquer ensemble. C'est un sujet qui est complexe, hein, je le précise. Alors on va y aller étape par étape. Peut-être, Maître Alexis Lehuchet, vous êtes donc notaire associé. Qu'est-ce que vous faites alors?
Du coup, dans la philanthropie, le notaire a un rôle primordial de conseil, hein, avant tout en respectant l'autonomie et la volonté de son client. Donc effectivement, on est dans les acteurs via les donations, les legs, etc. Donc on est un peu sur la face avant hein, de ces donations, tout en étant en lien avec les associations ou fondations pour essayer de faire respecter au mieux la volonté des partis.
Vous avez un vrai rôle de conseil, vous.
Tout à fait. C'est le primordial, tout simplement pour... Il y a certaines formes, notamment pour les testaments, à respecter. Hein, donc, notamment pour quelqu'un qui n'a pas de descendant direct, qui va léguer à des associations, les neveux peuvent être vexés. Donc, on est là pour bien encadrer juridiquement le testament, pour éviter toute contestation possible. Et puis, on verra qu'il y a tout un rôle de conservation aussi du testament, d'enregistrement dans un fichier national, pour éviter que le testament soit détruit, oublié ou autre.
Quand on est un particulier, comment on reçoit toutes ces informations? Alors là, on les reçoit ce matin, sur RCF par exemple, mais ça paraît très complexe d'un point de vue assez extérieur.
Effectivement, c'est un peu complexe. Alors, via la Chambre des notaires, on essaye de communiquer au maximum. Après, c'est vrai que j'encourage les gens à consulter leur notaire parce que il y a plein de questions qui se posent autour de cela et c'est vrai que c'est important de voir avec son notaire pour transmettre au mieux et respecter la volonté de chacun.
Maître Jean-Baptiste Autric, vous êtes avocat fiscaliste au cabinet Delsol. Qu'est-ce qu'on entend par là, avocat fiscaliste?
Alors, j'ai une dominante en fiscalité, mais nous conseillons principalement des associations ou des particuliers qui souhaitent contrôler ou créer une association. Pas uniquement des associations, d'ailleurs, ça peut être des fondations, il y a des fonds de dotation également, des communautés religieuses, en fait, toutes les structures qui sont notamment alimentées par des dons et par la générosité du public. Notre dimension de conseil s'articule principalement, notamment sur la capacité de ces structures à recevoir des financements et dans quelle mesure les donateurs pourront bénéficier de réductions d'impôts, puisque ça intéresse également les mécènes, de savoir dans quelle mesure leur générosité pourra être notamment compensée par une réduction d'impôt de l'État. On pourra y venir un peu plus tard sur comment est-ce qu'on détermine la capacité d'une association ou d'une autre structure d'intérêt général à bénéficier de cette réduction d'impôt.
Donc vous êtes plutôt sur l'angle associatif, là où vous, maître Alexis Lehuchet, vous êtes plutôt pour les particuliers.
Exactement. Voilà,
vous êtes très complémentaires aussi tous
Égal.
Les deux. Voilà. Marc Soulet, c'est important pour RCF d'être accompagné par des avocats fiscalistes, des notaires, comme on les entend ce matin.
Bien sûr, vous l'avez dit, le monde fiscal français est à la fois généreux mais complexe. C'est une caractéristique de la France, de favoriser la générosité, mais de l'encadrer. C'est une évidence. Et donc, on a besoin de faire ça en termes fondamentalement de sécurité hein, de la transaction. Et je crois que nos amis notaires ou avocats contribuent à la sécurité des deux côtés, la sécurité du don et la sécurité de l'association ou de la fondation qui reçoit, pour que les choses se fassent en toute transparence et dans le respect des règles fiscales françaises, qui sont, je le répète, généreuses. Vous en avez parlé dans la première partie de cette émission avec ces déductions significatives, hein, des deux tiers pour les dons de l'impôt sur le revenu, des trois quarts pour l'IFI. Donc c'est à la fois généreux, mais encadré. Et donc voilà, il faut respecter tout cela.
Je rappelle que vous avez la parole hein, dans Je pense donc j'agis pour participer à l'émission. Dites-nous comment vous exercez votre générosité, comment vous donnez aux associations. Est-ce que vous avez pensé à faire un leg? Est-ce que c'est des mécanismes qui vous semblent complexes ou alors vous renseignez assez facilement sur ce sujet? 04 72 38 20 23, c'est le numéro à composer pour venir à l'antenne où nous attend Hélène qui est avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour monsieur, bonjour Melchior.
Je vais vous laisser couper votre radio Hélène derrière, comme ça il n'y aura pas d'écho.
Oui, c'est ça, je viens de le faire. Donc j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, que sur les déclarations d'impôts de cette année, nous avons des limites pour les dons. Réduction et crédit d'impôt, dons versés à des organismes établis en France. Alors, il y a trois postes. Il y a dons versés à des organismes d'aide aux personnes en difficulté, maximum 1 000 euros. Dons versés du temps en temps à des associations cultuelles, maximum 554 euros. Ça n'existait pas auparavant, tout ça.
Oui.
Le maximum n'existait pas auparavant. On indiquait la somme que l'on avait versée aux organismes. Ça, c'est une chose. Deuxième, donc ça ne va pas arranger vos affaires.
On va en discuter, Hélène.
Bon, alors les affaires des uns et des autres. Ensuite, j'ai à la banque, j'ai un compte qui s'appelle épargne pour les autres, pour Petit Prince, Institut Curie, Médecins du Monde, Secours Catholique. Et tous les ans, la somme qui est versée donc par ma banque à ces organismes diminue. Donc je trouve que c'est une escroquerie. Alors je voulais le signaler pour que les gens ne foncent pas dedans pour essayer de d'améliorer le sort des autres personnes. Mmh. Voilà, c'est tout.
Le livret d'épargne pour les autres, je crois que c'est au Crédit Mutuel ou au CIC, hein, Hélène. Merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Jean-Baptiste Autric, peut-être on peut revenir sur la première partie de son témoignage, Hélène, sur cette limite pour les dons, sur les déclarations d'impôts.
Alors, il y a une limite, mais effectivement, pour certains dons, pour les dons que vous réalisez au profit d'associations d'intérêt général, le principe est que on peut le faire sans limitation, mais le bénéfice de la réduction d'impôt ne jouera que dans la limite de 20% du résultat imposable. Et puis après, il y a certains dons, et notamment certains qui sont adressés à des structures d'aide aux plus démunis, qui peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt un peu spécifique, au lieu de donner un avantage fiscal égal à 66% d'impôt, ça peut monter jusqu'à 75% pour certains dons. Et là, dans ce cas-là uniquement, il y a une limitation du don, jusqu'à 1 000 euros dans certains cas. C'est un peu ce qu'on appelait l'amendement Coluche, ouais. Vous savez, pour certaines associations d'aide aux sans-abri ou aux plus démunis, où la réduction d'impôt est encore plus intéressante que les dons aux associations simplement d'intérêt général.
On parle de la transmission ce matin, des questions d'héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser après le grand départ, c'est des questions qui sont difficiles à se poser, Alexis Le Huchet, pour vos clients, par exemple.
Alors oui, c'est une question à se poser. Alors, la question se pose plus pour les personnes qui n'ont pas de descendants directs, hein, pas d'enfants. C'est le plus gros des testaments que l'on fait. Et effectivement, c'est une réflexion à avoir. Alors, est-ce qu'on gratifie une personne proche, mais qui a une fiscalité très lourde, hein, quand on n'est pas de la même famille, ou du moins qu'on a un degré de parenté plus éloigné? Où on gratifie des associations. Mais on verra peut-être tout à l'heure que gratifier une association permet à la fois de gratifier cette personne proche, tout en transmettant à l'association, ça permet d'avoir une optimisation fiscale entre les deux.
Marc Soulé, comment on parle à nos auditeurs de ces questions ?
Ben, je crois qu'on leur parle d'abord en vérité, hein, parce que je crois que la vérité nous rend libres. Et nous leur disons tout simplement que RCF vit pour l'essentiel, pour plus de la moitié, de leur soutien. Voilà, c'est aussi simple que ça de dire qu'on a l'habitude que tourner le poste d'une radio soit gratuit. Non, ce n'est pas le cas. Et donc nous ne vivons pas de la redevance comme les radios publiques, nous ne vivons pas ou très peu de la publicité, nous n'avons pas de riches actionnaires comme les radios commerciales. Donc les dons sont clés pour financer nos radios, ils nous rapportent à peu près un peu plus d'un tiers de nos revenus. Et donc l'engagement que nous demandons à nos auditeurs, donateurs, c'est la contrepartie tout simplement de l'effort que nous fournissons, je dirais, pour simplifier, pour donner une image, nous apportons le moteur, c'est-à-dire notre énergie, notre enthousiasme, notre professionnalisme, et puis eux, ils nous apportent le carburant sous différentes formes, on va en parler ce matin, et ce carburant, évidemment, c'est de l'argent. Voilà, donc on essaie d'être en vérité avec eux. Ils peuvent avoir le sentiment peut-être d'entendre beaucoup ce message-là, mais je crois qu'on n'est jamais assez pédagogique sur le fait que voilà, cette radio, votre radio, vit pour l'essentiel de votre soutien, de votre engagement.
On a reçu un message de Jean-François par mail à direct@rcf.fr qui aimerait parler de la DTU. Alors, j'espère que vous connaissez la donation temporaire d'usufruit. En général, pour 3 ans, Jean-François nous dit, elle permet de donner les revenus d'une ou plusieurs SCI à une fondation abritante qui reverse à des associations, dont RCF.
Oui, tout à fait. C'est un moyen effectivement de gratifier l'association ou la fondation directement. Hein, c'est-à-dire que on va se conserver la propriété, mais il y a quelques conditions à respecter. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins ça soit une période d'au moins 3 ans. Il faut que ça soit évidemment une association, une fondation qui soit reconnue. Et puis surtout, ça doit porter sur des actifs qui contribuent à la réalisation de l'objet de l'organisme bénéficiaire. Donc par exemple, ça peut être une mise à disposition de locaux d'habitation, hein, pour une association d'aide au logement, enfin, etc. Donc il y a certaines conditions, mais effectivement, c'est un bon moyen d'exprimer la volonté de gratifier immédiatement l'organisme sans attendre son décès.
C'est une belle précision. C'est courant, ça arrive
alors,
souvent.
J'avoue, c'est pas ce qu'on fait le plus tous les jours, mais c'est un très bon moyen de transmission.
Il y a un terme qu'on utilise souvent, c'est le terme de libéralité. Hein, c'est ces modes de soutien qui sont d'ailleurs en progression pour les associations. Qu'est-ce qu'on entend par libéralité, Maître Jean-Baptiste Autric? Les legs, hein, je crois déjà, les donations, alors, les assurances vie.
Il y a deux définitions pour les libéralités. Il y a les actes pour lesquels l'intervention d'un notaire, Maître Lehuchet le confirmera, est obligatoire. Et on entend principalement par là les legs et les donations, c'est-à-dire les legs post-décès et les donations du vivant du donateur. C'est un peu particulier parce que les libéralités, seules certaines structures peuvent les percevoir. C'est-à-dire qu'une association simplement déclarée, si elle a moins de 3 ans, elle n'aura pas la capacité de recevoir une libéralité, elle ne pourra pas recevoir un acte, enfin dont l'intervention d'un notaire est obligatoire. Et en toute hypothèse, une association simplement déclarée supportera des droits de mutation qui sont un peu rédhibitoires sur ce type de libéralité. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas de figure, nous avons certains clients, des associations, qui font le choix de créer une fondation ou plus fréquemment en ce moment des fonds de dotation qui, eux, ont la capacité de recevoir ce type de libéralité. Et donc, si vous voulez, vous avez la perspective de recevoir un leg ou une donation, il faut essayer de passer, enfin, il faut passer par une structure qui a la capacité de le recevoir.
Quelles sont les motivations des testateurs, en tout cas des personnes qui passent à l'action, hein, finalement, Maître Alexis Lehuchet? C'est des motivations qui sont diverses. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas d'enfants, par exemple.
Voilà, la plupart, c'est des personnes qui n'ont pas d'enfants, hein, qui veulent gratifier ces associations. Après, il peut y avoir des personnes qui ont des enfants, mais c'est à la limite un autre public, parce qu'ils vont d'abord protéger leur famille, les mettre à l'abri. Et c'est plus des gens, après, qui vont créer effectivement des fondations, des fonds de dotation, etc. Mais là, on est sur un autre public qui a déjà un peu plus, qui vit un peu plus aisément. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a envie, qui a la capacité d'avoir envie à gérer cette fondation et cette association, où là, on est sur un autre critère et un autre projet.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Monsieur Melchior. Je voulais vous dire...
Je vais vous laisser couper votre radio aussi, Anne-Marie, derrière.
Excusez-moi.
Bah, décidément, ce matin, vous êtes mal réveillées toutes.
Écoutez, je vais vous dire, j'ai 87 ans.
Oui.
Bon, je suis une personne âgée, mais il y a longtemps que je trouve que je suis une personne âgée avec des enfants. Donc, c'est très bien ce que vous faites de parler des dons, tout ça, c'est normal. Mais s'ils sont en baisse, je pense que c'est un peu, comme je vous dis, c'est normal. Parce que lorsqu'on fait un don, de suite, on est sollicité par un autre appel. Et j'ai fait un bref calcul, je suis arrivée à plus de 100 en association. Alors vous pensez bien, et j'ai arrêté là mes calculs, hein, parce que je ne peux pas donner, je donne à quelques-unes que j'ai choisies, dont RCF, et puis KTO bien sûr. Moi je trouve que KTO mérite beaucoup, parce que KTO recouvre les événements mondiaux, hein. Et c'est une chaîne qui est merveilleuse.
Mais en tout cas, on entend que vous êtes bien sollicité, Anne-Marie. C'est quelque chose qui revient souvent. Merci, Anne-Marie, de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Maître Jean-Baptiste Autric, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça, les personnes âgées, on a l'impression qu'elles sont vraiment sollicitées assez souvent quand même.
Pas que les personnes âgées. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que lorsque vous réalisez un don au profit de structures qui mettent en place des stratégies de fundraising, c'est-à-dire avec des démarches de collecte auprès du public, il n'est pas rare non plus que les coordonnées ou les données de ces personnes-là soient transmises sous forme de fichiers à d'autres structures qui vont chercher à collecter des dons. Ça n'impose pas de réaliser des dons à toutes les personnes qui vont nous solliciter. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment. Ouais.
Marc Soulet, cette sollicitation, est-ce que nous, on en abuse à RCF ou alors au contraire, on essaye vraiment de veiller à faire passer des messages de manière assez intelligente peut-être?
Écoutez, on essaie de faire le meilleur usage de ces formes de sollicitation, de les renouveler. Moi, j'avoue que je suis très sensible au point de notre auditrice. D'abord, je la remercie qu'elle soit donatrice de RCF. Je suis sensible à cette sursollicitation pour la vivre. Je crois que nous la vivons tous. Chez RCF, qu'est-ce que nous essayons de faire? D'abord, nous essayons non seulement de solliciter, mais d'informer. Autrement dit, une grande partie des courriers que les gens reçoivent ne sont pas des appels aux dons, sont des courriers d'information sur la vie de RCF, puisque nous essayons d'entretenir le lien avec nos auditeurs. Nous essayons aussi d'utiliser le canal radiophonique et d'éviter donc ainsi les courriers. Bref, on essaie de faire un usage le plus intelligent possible de cette sollicitation pour nourrir le lien sans tomber dans cette sursollicitation qui est effectivement pénible. Je crois qu'il faut aussi respecter la liberté des auditeurs, donateurs, qui sont les mieux à même de juger quelles sont les causes auxquelles ils sont sensibles. Et donc, dans ce sens-là, ne pas les sursolliciter.
Et dites-nous justement comment vous exercez votre générosité, comment vous donnez aux associations, avec quel mécanisme également. On vous attend au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Un peu de jazz en ce vendredi matin, on se retrouve juste après.
Let's take the elevator up through the roof, and we'll step outside of time while I spin you this rhyme, and it's a nothing but the gospel truth. It wasn't a real one, Lord, that would be mine, if you lived in a place like for me, like a shear, like a man in a hungry stack. It was a lovely shade of lilac, it was her father's pride and joy. She was the first girl that he ever kissed. He was a lucky, lucky boy. It was a proper car of destiny, and that destiny came down upon Melanie Hargreaves' father's Jaguar. Show me the hedge and tell me it's bedtime, 'cause I just can't face all the facts of this case. It's all too painful to relate. Kids from the city stole the Jaguar away, drove it down to the beach and touched it, and it might still be there today. It was a lovely shade lilac, now it's a mostly burned out black, and however much you want it to, it ain't never coming back. And one day I'm gonna sell up everything that I own, and I'll run away with you, and it won't be nobody's business where we are. No, no, just like a Melanie Hargreaves father, Jaguar. Take it. Father's Jaguar. No, no, Melanie Hargreaves' father.
The Jazz Butcher pour vous accompagner sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Comment exercer sa générosité aux associations, aux fondations? On en discute avec nos trois invités dans cette émission. Maître Alexis Lahuchier, je rappelle que vous êtes notaire associé et membre de la Chambre des notaires du Rhône. Maître Jean-Baptiste Autric, vous êtes avocat fiscaliste associé au cabinet Delsol. Vous êtes spécialiste en droit des associations. Et Marc Soulet également nous accompagne, président de RCF. Ça vous paraît un peu compliqué tout ça, Marc? Ça peut sembler en tout cas compliqué pour nos auditeurs de comprendre tous ces mécanismes.
Oui, je comprends que ça puisse donner cette impression. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est la contrepartie du système fiscal français qui est à la fois généreux mais assez encadré. Donc toutes ces différentes formes, tous ces différents canaux peuvent paraître à nos auditeurs compliqués. Je crois qu'il faut dire des choses très simples. D'abord, il faut dire que quand on veut, on peut. Et donc le vrai sujet, c'est comment on crée la sensibilité à la cause. Et je le vois bien dans le cadre de RCF, nous essayons à travers les émissions du jeudi du don et des semaines que nous consacrons au Radio Don, d'expliquer ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et je crois que ça a été dit dans la première partie de votre émission. 2020 a été une année très importante parce que nous avons pris conscience, tous collectivement, à travers la crise du Covid, de notre interdépendance. Et que finalement, quand j'aide l'autre, eh bien, je m'aide aussi. Hein, on a appris notre fragilité, notre indépendance, on a appris à des gestes qui protégeaient l'autre. Et je crois que sur le fond, quand des milliards d'individus à l'échelle de la planète apprennent ça, je pense que ça a un effet majeur sur la prise de conscience et sur l'interdépendance. Donc le sujet central pour moi, c'est de créer les conditions de comprendre la cause, d'être sensible à la cause. Et puis ensuite, comme je vous le disais, notre auditrice tout à l'heure nous disait qu'à 87 ans, elle était extrêmement sollicitée, qu'elle pouvait aussi avoir du mal à comprendre tous ces différents canaux. Donc c'est parfaitement légitime et je crois qu'il faut tout simplement demander de l'aide. Voilà. Il y a différentes façons de le faire, auprès de son notaire, auprès d'un avocat. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé par RCF, c'est évidemment contacter le service auditeur qui vous mettra en contact avec des personnes de l'organisation qui sont capables de vous expliquer quelle est la meilleure façon de faire. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Quand on veut, on peut. Et j'insiste sur un point majeur, Melchior, c'est qu'au-delà des aspects juridiques et fiscaux, donner, c'est joyeux. Voilà, c'est ça qu'il faut répéter.
Maître Alexis Lahuchier, comment on trouve les bons mots parfois pour expliquer des mécanismes? On va parler des legs dans un instant, mais comment vous, en tant que notaire, voilà, vous avez appris peut-être à vulgariser, c'est un grand terme, hein, mais votre métier et puis tous ces mécanismes?
Effectivement, il faut qu'on essaye de parler concrètement. Alors, on a un jargon qui est peut-être difficile à comprendre, je vous l'avoue. Mais voilà, on essaye surtout de bien comprendre la volonté du client pour arriver à l'objectif qu'il nous a donné.
Parlons des legs. Qu'est-ce qu'un leg déjà pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas forcément ce que c'est?
Un leg, c'est une disposition qui figure dans un testament, donc par lequel on transfère après son décès son patrimoine. Du coup, vous avez plusieurs types de legs. On peut faire un leg universel, c'est-à-dire qu'on va léguer l'intégralité de son patrimoine. On peut faire un leg à titre universel qui consiste à donner une quote-part de son patrimoine, une moitié, un quart, ou encore une catégorie de biens, les biens immobiliers, etc. Et enfin, il y a le leg particulier qui porte sur un bien précis. Donc voilà, tout ça se fait par le biais de testament. Alors, je vais essayer de pas trop rentrer non plus dans le détail pour pas perdre les auditeurs, mais il y a deux types de testament. Il y a le testament le plus courant, qui est le testament holographe, qui est écrit de la main du testateur, daté et signé. Et après, on peut avoir un testament authentique par devant notaire, mais je vais pas rentrer forcément dans les conditions. Mais effectivement, il est primordial pour les personnes qui n'ont pas de descendance de faire un testament, pour éviter, si elles le souhaitent, pour éviter effectivement que la succession, parte à des cousins peut-être qu'ils ne connaissent pas, etc. Où là, il va falloir rechercher les héritiers de sang. Donc peut-être que la volonté de gratifier une personne est importante de faire ce testament pour gratifier la personne de son choix, la personne ou association.
C'est un document qui est indispensable, le testament, dans ce cas.
Effectivement, ça c'est indispensable et à mon sens, quand on n'a pas de descendance, il est même indispensable de désigner un légataire universel, c'est-à-dire l'intégralité du patrimoine. Parce que même si vous faites un testament où vous désignez par exemple telle association aura tel bien, et bah pour le reste, ça va être un frein pour le notaire puisque bah il faudra rechercher les héritiers pour le mobilier qui se trouve dedans, etc. Et là, ça peut durer un peu plus longtemps avec un certain coût, hein, parce qu'il va falloir faire appel à un généalogiste, etc.
Il y a un cas particulier qui existe, c'est le legs universel avec charge.
Exactement, ça c'est un très bon moyen de gratifier une personne de son choix tout en optimisant fiscalement et surtout gratifier une association. Alors, c'est effectivement, vous avez une amie, un neveu que vous voulez faire hériter. La fiscalité est très lourde hein, pour ces personnes qui ne sont pas des descendants directs. Par exemple, une amie, c'est 60% de droits hein, sur ce que vous recevez. Et donc, il y a des petits moyens techniques qui permettent de gratifier tout le monde. C'est-à-dire, alors, je vais essayer de vous donner un exemple sans trop perdre les auditeurs. Mais vous voulez gratifier, par exemple, la personne à son amie Louise qu'elle veut gratifier, elle a un patrimoine de 200 000 euros. Si elle le mettait légataire universel, cette petite Louise, en disant je lui lègue tout mon patrimoine, et bien au final, après le passage des droits de 60%, Louise, elle va finalement recevoir que 80 000 euros. Je vous fais grâce du détail des calculs, mais voilà. Alors que si vous nommez une association, enfin pas une association, mais une fondation qui peut recevoir légataire universel à charge pour elle de redonner une somme nette d'impôt à cette fameuse Louise, Louise va recevoir ses 81 000 euros de la même façon et l'association va juste payer les droits pour Louise sur cette somme de 81 000 euros. Donc au final, avec le même patrimoine de 200 000 euros, la fondation va recevoir, elle, dans les 72 000 euros et Louise 80 000. Donc avec le même patrimoine, on arrive à gratifier et optimiser fiscalement. On peut gratifier tant l'association que la personne... de son choix.
Marc Soulet, on en reçoit beaucoup des legs à RCF, à la Fondation RCF.
Oui, on en reçoit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces legs viennent de nos anciens donateurs. Donc parmi nos auditeurs, il y a des donateurs et c'est parmi eux que se trouvent nos légataires. Alors on les reçoit par les deux canaux que vous avez mentionnés, la Fondation RCF, mais on le reçoit aussi par le Fonds de dotation RCF. Et ce que vient de rappeler Maître Le Huchet est extrêmement important. Il y a des façons d'optimiser son héritage. Et des façons à la fois de gratifier les personnes que l'on souhaite, tout en contribuant à financer une association, RCF ou un autre. Et donc là, j'insiste sur le fait que tout ça doit être fait par des professionnels du sujet. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut être animé des meilleures intentions, mais si on fait une démarche, je dirais maladroite, eh bien, on peut tout simplement payer plus d'impôts que nécessaire. Voilà. Donc, il faut passer par des professionnels, des notaires, des avocats, ou contacter directement RCF dans ce cas, ou une association qui est professionnelle du sujet, de façon à sécuriser la transaction. Ça, c'est très très important.
Maître Jean-Baptiste Autric, si j'ai bien compris, si je résume bien, alors c'est complexe même pour moi, mais seuls les fonds de dotation et les fondations peuvent sont habilités à recevoir des legs.
Oui, et certaines structures qui sont reconnues d'utilité publique. Oui. C'est une confusion que font parfois les gens entre la reconnaissance ou l'intérêt général et l'utilité publique. S'agissant de la réduction d'impôt au titre du mécénat, il faut que les structures soient d'intérêt général. Pour donner aux mécènes le reçu fiscal qui va ouvrir droit à la réduction d'impôt, il n'y a pas d'obligation d'avoir un agrément ou une habilitation. Il faut répondre aux critères de l'intérêt général qui a été établi par l'administration fiscale. Il n'y a pas de loi là-dessus. Mais c'est souvent une confusion que font les gens en disant j'ai pas obtenu de rescrit fiscal, mon association ne peut pas délivrer un reçu fiscal. On peut tout simplement rappeler à nos auditeurs que cette habilitation n'est pas un préalable à l'émission d'un reçu fiscal. Si on répond aux conditions de l'intérêt général, parce qu'on a une gestion désintéressée, qu'on exerce une activité non lucrative, qu'on s'adresse au plus grand nombre, l'association, si elle s'inscrit dans ce cadre-là, pourra délivrer des reçus fiscaux à ses mécènes. Et la demande préalable à l'administration fiscale n'est pas nécessaire.
On va marquer une petite pause dans « Je pense, donc j'agis ». Venez nous dire si vous êtes en plein discernement pour cette question de legs, si c'est flou pour vous ou si au contraire vous avez réussi à vous documenter, si vous êtes rapproché de votre notaire pour en savoir plus. Dites-nous comment vous vous donnez également aux associations, aux fonds de dotation ou aux fondations. On vous attend au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et on continue cette émission jusqu'à 11h, toujours avec nos trois invités. Maître Alexis Lehuchet de la Chambre des notaires du Rhône. Vous êtes notaire associé, je précise. Maître Jean-Baptiste Autric, avocat associé au cabinet Del Sol et spécialiste en droit des associations. Et Marc Soulet est toujours avec nous, président de RCF. On a parlé des legs. Marc, les legs qui vont à la fondation RCF. C'est important de le souligner, ça aussi.
Oui, ils vont à la fondation ou au fonds de dotation, qui sont les deux canaux qui sont fiscalement optimisés. La question peut-être pour nos auditeurs, c'est finalement je donne, mais à quoi ça sert tout ça? Donc je voudrais juste rappeler que RCF a 40 ans et que la fondation et le fonds de développement nous accompagnent depuis environ une dizaine d'années. Je crois que ces dons, notamment ces legs, c'est un acte de transmission pour nos auditeurs, nos donateurs qui le font. Et donc, il faut les rassurer sur le fait qu'avec cet argent, nous préparons l'avenir. Nous avons 40 ans aujourd'hui et nous espérons être encore là dans 40 ans. Et donc, on essaie d'accompagner les grands changements que vit la radio aujourd'hui. On vient d'écouter un petit spot sur le DAB, la radio numérique terrestre. Tout le monde est bien conscient que les habitudes d'écoute de nos auditeurs changent et que le digital devient extrêmement important. Donc voilà, ces legs qui correspondent à une volonté forte de transmission de la part de nos légataires, ils vont nous servir à préparer l'avenir.
Préparer l'avenir de RCF et des radios locales, hein, bien sûr, qui rencontrent souvent quelques fragilités. Maître Alexis Lehuchet, alors on a parlé des legs. J'aimerais qu'on parle de la donation aussi, qui est un acte notarié, hein, qui permet de donner un bien de son vivant.
Exactement. Donc à la différence du testament où on lègue justement après son décès, la donation va permettre encore une fois de gratifier immédiatement l'association, la fondation, etc. Après, il y a plusieurs mécanismes sur ces donations. Hein. Vous pouvez donner en pleine propriété, donc donner tout de suite le bien à cette fondation, mais vous avez d'autres mécanismes comme la donation avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire vous gardez l'usufruit, donc c'est l'usage et les fruits du bien, hein, donc l'usage, la jouissance du bien, les fruits, les revenus. Donc pendant votre vie durant, ça ne change pas grand-chose pour vous, hein, vous pouvez encore aller dans le bien ou encore percevoir les loyers, mais à votre décès, le bien reviendra intégralement à cette fondation. On avait parlé aussi de la donation d'usufruit temporaire tout à l'heure, qui est un autre outil, hein, qui permet de gratifier immédiatement. Donc c'est vrai que cette donation permet vraiment de faire immédiatement. Et encore une fois, après, l'acte notarié, pourquoi il est obligatoire? Sur des immeubles, il va falloir changer le nom du propriétaire au niveau du fichier immobilier. Hein, donc là, on n'a pas le choix que de passer par la case notaire. Après, pour tout ce qui est donation de sommes d'argent, alors vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de passer par la case notaire. Mais dès qu'on arrive sur des sommes importantes, on le préconise pour encadrer la volonté du donateur et les conditions de cette transmission.
Denise nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Denise.
Bonjour monsieur. Oui, je voulais poser une question parce que j'ai fait un testament, j'ai légué, je vais vous dire à qui, aux apprentis d'Auteuil. Bon, c'est une maison que je possède et bon, maintenant je voudrais bien leur donner tout de suite parce que j'ai quand même des travaux. Bon, ça m'arrangerait de leur donner, mais j'ai fait un testament. Est-ce qu'on peut l'ouvrir avant mon décès? C'est ça que je voulais savoir.
C'est une très bonne question. Merci Denise de l'avoir posée. Alors je me tourne vers le notaire, hein, quand même, Alexis Lehuchet.
Alors le testament, non, on ne va pas l'ouvrir avant votre décès. Hein. C'est ça, on l'ouvre.
C'est pas possible.
Non, ça, on l'ouvre au décès. Après, encore une fois, vous pouvez aller consulter votre notaire pour annuler le testament, voire donner tout de suite. Mais le testament sera ouvert qu'à compter du décès sur présentation de l'acte de décès. Mais après, voilà, il y a d'autres moyens. Il suffit de refaire un testament pour annuler le précédent. Ou si depuis vous avez donné le bien, le bien n'existe plus. Le testament par lui-même devient caduque.
Voilà, Denise.
Ah bon, très bien. Mais je pensais qu'on pouvait peut-être l'ouvrir du fait que, je leur donnais comme ça. Non.
Un mythe, comme je vous dis, il n'y a pas d'utilité à l'ouvrir. Vous savez ce qu'il y a dedans. Après, rien ne vous empêche soit de l'annuler pour donner, soit même ne pas l'annuler. Comme je vous dis, vous faites cette donation immédiatement. Voilà. Et le testament, comme le bien n'existera plus, n'aura pas d'application.
Donc, je vais voir le notaire, puis je lui demande de ben, réaliser le legs, quoi, par le fait.
Exactement.
Voilà, Denise. Merci de nous avoir appelé ce matin dans Je pense donc j'agis. Marc Soulet, ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important d'être bien accompagné quand même. Hein.
Oui, bien sûr. Je crois que ce que nos invités confirment, c'est que on a besoin de sécurité hein, dans ce domaine. L'environnement, on l'a dit, est relativement complexe. On n'est pas tous des spécialistes du droit fiscal ou des aspects juridiques. Donc, on a besoin d'être accompagné. Les notaires sont évidemment le premier niveau auquel on pense tous. Il y a aussi dans les associations des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui sont parfois d'ailleurs des anciens notaires bénévoles, qui aident ces associations à canaliser de manière sûre les dons des auditeurs, en l'occurrence, ou des donateurs plus généralement.
Jean-Baptiste Autric.
Oui, moi je voulais inviter les auditeurs préalablement à l'établissement d'un testament. C'est le cas d'un testament holographe, c'est-à-dire celui qui est rédigé vraiment de la main du donateur et pour lequel l'intervention d'un notaire n'est pas forcément requise. Parce que moi, parmi mes clients, il m'arrive fréquemment d'avoir des cas de figure où un legs a été formulé au bénéfice d'une association qui en fait n'a pas la capacité de le recevoir. Ou alors, si elle a la capacité, elle va supporter des droits de mutation de 60%, ce qui rend complètement confiscatoire le taux d'imposition et qui parfois ne permet pas à l'association bénéficiaire d'accepter ce legs. Et j'ai eu des cas de figure où des associations se retrouvaient contactées par des notaires et n'avaient pas la possibilité d'accepter le legs parce que ça imposait de vendre le bien pour payer des droits et elles n'avaient pas les moyens d'assurer la commercialisation, elles connaissaient pas forcément le prix du bien. Et donc la volonté du testateur n'était pas respectée ou en tout cas n'était pas atteinte puisque il n'a pas pu gratifier l'association. Donc ce qu'il faut conseiller à nos auditeurs, c'est vraiment de s'assurer au préalable, avant l'établissement de ce type d'acte, que la structure qu'ils entendent gratifier a la capacité de recevoir cette libéralité. Ou sinon, c'est réalisé de son vivant, ce qu'on appelle un don manuel, c'est le don de la main à la main. Je suis désolé pour notre ami notaire, mais l'intervention dans ce cas-là du notaire n'est pas imposée. C'est le don que vous pouvez réaliser n'importe quand, sans intervention, sans acte juridique particulier. Et il est réalisé simplement par le fait de donner de la main à l'association bénéficiaire.
Marc Soulet.
Oui, je voudrais juste appuyer le point de Maître Autric. Nous sommes très régulièrement confrontés à ce sujet. Un certain nombre de nos auditeurs veulent soutenir leur radio locale, la radio de X, et donc font un legs libellé comme cela. Et comme Maître Autric vient de le dire, malheureusement, cette radio, en tant que structure associative, n'est pas habilitée à recevoir des legs, du moins en franchise d'impôt. Et donc, il est très important de libeller les legs au nom, non pas de la radio de X, mais du fonds de dotation RCF, qui ensuite se chargera de la remettre à la radio X en question. Voilà, donc c'est très important. Et donc, on peut être animé des meilleures intentions du monde, et souvent nos auditeurs le sont. Si on ne fait pas les choses bien, dans les formes requises, on peut malheureusement perdre de l'argent, et c'est dommage.
Alexis Le Huchet, c'est à vous de vérifier aussi que l'association...
Effectivement, du rôle de conseil du notaire, hein, d'encadrer juridiquement et de connaître le sort de la fiscalité de ce que va donner la personne.
Et dans le cas où, malheureusement, l'association n'est pas habilitée à recevoir un legs, hein, par exemple, qu'est-ce qui se passe? L'argent est perdu
L'argent est perdu, ou comme disait Maître Autric, hein, le bien va être vendu pour qu'il récupère les fonds, mais avec une fiscalité beaucoup plus lourde. Donc c'est là, encore une fois, le rôle du conseil, que ce soit l'avocat ou le notaire, de faire cette vérification pour optimiser fiscalement et arriver à respecter la volonté du testateur.
On a parlé des legs, on a parlé de la donation. Il y a aussi l'assurance vie qui fait partie des libéralités. Ça aussi, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu, nous rappeler déjà ce que c'est, Maître Le Huchet?
Alors effectivement, il y a l'assurance vie. Alors là, on passe plus par le notaire. Hein. C'est des contrats d'assurance. Mais effectivement, c'est un moyen de transmission où vous ouvrez votre contrat et à votre décès, le solde de ce compte va être transmis à la personne gratifiée.
aux associations, fondations et fondations ou...
Toutes les structures qui ont la capacité de recevoir des dons. Ce sont des régimes fiscaux encore un peu différents puisqu'il y a des abattements en fonction de la durée de détention de ce type de contrat. Il suffit d'indiquer au moment de la souscription qui sera l'organisme bénéficiaire du versement. Alors ce sont des contrats sur la vie, donc généralement ils se débouclent au décès de la personne, paradoxalement. Il suffit d'indiquer quelle est l'association ou l'organisme qui recevra les fonds lorsque le contrat sera débloqué.
J'ai le sentiment que c'est un mode de soutien qui est plutôt simple, voire souple.
Oui, parce qu'en fait, c'est une sorte de virement automatisé qui va permettre d'alimenter ce contrat d'assurance vie que généralement les donateurs ont tendance un peu à oublier sur la durée, qui grossit au fur et à mesure des années et qui peut constituer des fonds assez importants au moment où le contrat se débloque.
Marc Soulet, sur l'assurance vie.
Oui, écoutez, j'encourage évidemment nos auditeurs à évaluer cette option. Nous en sommes au niveau de la fondation ou du fonds de dotation RCF souvent bénéficiaires, souvent avec d'autres. C'est une façon aussi, puisqu'il s'agit d'argent, je dirais, de numéraire, donc c'est assez simple de dire je veux en donner 30% à RCF, 30% à Y et 30% à Z et X à un autre. Donc voilà, c'est assez simple de répartir cette somme, ce qui est évidemment un peu plus compliqué quand il s'agit d'un bien immobilier. Donc voilà, c'est une forme flexible et j'encourage nos auditeurs, nos donateurs potentiels à la regarder.
Quand, si on revient un peu, Marc Soulet, sur la fondation RCF, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que vous recevez des sommes par des legs, par des assurances vie, par des dons directs aussi, d'ailleurs, oui. Des donations. Qu'est-ce que vous en faites après? Comment est-ce que c'est distribué, redistribué aux différentes radios locales qui ont besoin d'aide des auditeurs?
Bien sûr. Donc cette fondation, elle existe depuis 10 ans à peu près. Elle est abritée par la Fondation Saint-Irénée, qui a été créée à peu près dans la même période par le diocèse de Lyon. Voilà. Donc nous sommes dans le cas très classique d'une fondation abritée par une fondation historique. Et effectivement, nous collectons des dons qui sont souvent des dons qu'on appelle IFI, c'est-à-dire que nos donateurs recherchent une déduction qui a été rappelée dans la première partie de votre émission à hauteur de 75% dans une certaine limite. Voilà, donc ces donateurs, ils donnent à la fondation. Suivant leur origine, suivant la volonté du donateur, eh bien nous affectons ces dons au projet de la radio X ou Y du réseau RCF. Voilà, donc très récemment, on a attribué des dons sur des projets portés par RCF Haute-Normandie, par exemple. Bon, c'est souvent des projets de type je dois renouveler un nouvel émetteur, je dois me doter d'un studio mobile, je dois développer tel ou tel équipement et renouveler tel ou tel équipement. Donc les radios présentent des projets à la fondation. Des projets très concrets qui servent notre objet social, qui servent à transmettre sur nos ondes. Et la Fondation reverse à ces radios les montants qui sont demandés. Donc pour vous donner un petit exemple, nous avons collecté au niveau de la Fondation en 2021 environ 700 000 euros. Voilà, ça représente environ un tiers de ce que collecte la Fondation Saint-Irénée, donc c'est significatif. Et voilà, on peut en tout cas remercier nos donateurs. Cet argent est bien utilisé. Il y a une gouvernance très précise d'une fondation. C'est aussi, je le répète, un sujet de sécurité. Cet argent, il est affecté à des projets. Il y a des gens indépendants de RCF qui veillent à ce que cette allocation soit faite dans les normes, dans les règles. Voilà, donc c'est une question, une fois de plus, de sécurité. Je crois qu'il faut répéter à nos auditeurs que nous prenons leurs dons de manière extrêmement sérieuse. Ces dons, qu'ils soient petits ou grands, ils nous engagent et on en fait une utilisation la plus sobre, parcimonieuse possible, de façon à maximiser leur impact l'avenir de RCF, puisque c'est souvent ça qui est en jeu.
Il est 10h50 sur RCF. Vous savez qu'on a à cœur sur cette antenne de soutenir les jeunes, soutenir l'engagement des jeunes, et c'est ce que nous allons faire tout de suite avec un concours qui récompense leur engagement. Ça y est, on connaît enfin les 5 candidats sélectionnés pour les trophées de l'engagement des jeunes. Ce concours, en partenariat avec RCF et la Mutuelle Saint-Christophe, qui récompense l'engagement des jeunes. On vous dit tout des prochaines étapes avec Valérie Verchaiseur. Bonjour Valérie.
Bonjour Melchior.
Vous êtes la déléguée générale du Fonds Saint-Christophe. On en est à quelle étape actuellement ?
Nous en sommes à la phase du vote en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on a choisi 5 lauréats. Un par domaine d'action, donc je vais en reparler tout à l'heure. Et ces 5 lauréats ont fait une vidéo. Et depuis, en fait, lundi, ces vidéos sont en ligne sur le site des Trophées de l'Engagement. Et donc, on en est à la phase de vote pour tout public qui peut justement visionner ces vidéos et choisir son projet coup de cœur.
Alors, 5 beaux projets ont été sélectionnés, hein, tous très variés d'ailleurs. Et vous nous les présentez, Valérie.
Oui, si on commence par la culture, l'association c'est Culture Act. Le premier sauvage, c'est vers Lyon, vers Grenoble. L'objectif là, c'est de développer l'accès à la culture artistique, donc musique, théâtre, différentes formes d'art, pour des jeunes de 8 à 18 ans qui sont issus d'un quartier périphérique de Grenoble. Voilà, pour la culture. On passe à l'éducation. L'éducation, l'association, c'est les Amis de Pillandrou. Et là, en fait, on part en Côte d'Ivoire. Et l'objectif de ce projet, c'est d'offrir une chance de réussite à plus de 200 élèves qui vivent dans ce village de Pillandrou, isolé en milieu rural, en construisant, en fait, un collège de proximité dans ce village. Le troisième, c'est l'environnement. L'association, c'est À tout soleil. Donc là, on part dans un projet au Bénin et de lutte contre la déforestation afin de proposer aux familles, à des familles qui vont très loin pour chercher du bois, de remplacer la cuisson au bois par justement des tables de cuisson solaire. Donc là, c'est l'accompagnement dans la construction de tables de cuisson solaire. Donc l'avant-dernier, Bulle solidaire. Bulle solidaire, là on part à Rennes. Et l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des personnes sans abri dans les rues de Rennes avec un camping-car qui a été aménagé en camping-douche dans le cadre de Maraude pour offrir justement un espace pour que les personnes puissent venir se doucher, mais aussi un espace de convivialité aussi pour créer du lien et où elles pourront être orientées selon leurs besoins vers des professionnels sociaux. Dernier projet, c'est social. Social, c'est SMILE. SMILE, ça veut dire service et mission intergénérationnelle en lien avec l'étudiant. Là, c'est une association de jeunes qui souhaitent lutter contre la solitude des personnes âgées dans les EHPAD et qui donc ont comme projet de créer des binômes entre des étudiants et des aînés, pour justement, soit sous forme de visite ou d'appel téléphonique ou de courrier, renforcer les liens humains et les relations intergénérationnelles.
Voilà pour ces 5 projets. Et donc maintenant, place au vote. Voilà, comment on fait, Valérie, pour voter ?
Comment on fait ? On va sur le site trophée-engagement.fr. Et là, vous verrez, il y a la photo de chaque jeune, il y a le nom de l'association, il y a un petit résumé du projet. Et vous cliquez et vous avez derrière la vidéo, donc les 5 vidéos. Et voilà, vous vous laissez guider et puis vous choisissez votre projet préféré.
Eh bien voilà, on en sait un peu plus. Rendez-vous dès maintenant sur trophée-engagement.fr pour voter pour votre projet préféré. Merci beaucoup Valérie Verchaiseur.
À bientôt Melchior, merci.
Et les jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par toutes ces questions de transmission, de patrimoine, d'héritage, d'après vous, Maître Alexis Lehuchet? Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle quand même, je vais dire aux personnes âgées, alors c'est pas péjoratif de dire ça, mais à des personnes qui sont peut-être plus avancées dans leur vie.
Effectivement, alors les jeunes sont aussi intéressés, mais je pense que ça passe par le biais d'autres canaux, comme l'a dit Maître Autric tout à l'heure, c'est plus des dons manuels, hein, de la main à la main. Tout ce que nous, on voit passer dans les études de notaire, c'est plus effectivement tout ce qui est donation, donc c'est de l'immobilier, donc faut déjà avoir un certain patrimoine pour le faire, ou les legs, mais en général, les personnes qui se posent la question sur le devenir de leur patrimoine sont plus d'un certain âge, mais j'ai reçu encore la semaine dernière une personne entre 40 et 50 ans qui se posait la question, qui n'avait pas de descendance et qui voulait justement gratifier des fondations.
Marc Soulet, sur la question des jeunes.
Oui, deux réactions. La première, c'est de vous dire que nous avons parmi nos mécènes des gens qui ont fait raisonnablement fortune en revendant leur entreprise, notamment des start-up, et qui se posent la question dès 30, 40 ans de que faire avec cet argent et qui veulent le placer, le donner. Voilà, donc cette question n'est pas réservée aux plus âgés. Et puis la deuxième réflexion que votre question m'inspire, c'est peut-être quelque chose que ne connaissent pas les auditeurs, mais 50% de l'audience de RCF, des auditeurs de RCF, ont moins de 50 ans. Nous sommes dans les petites grandes radios, parmi les plus jeunes. Si on regarde ce même pourcentage pour Radio Classique, par exemple, ben Radio Classique, c'est uniquement 20% qui a moins de 50 ans. Nous sommes à 50%. Voilà, donc RCF est une radio jeune, d'où la question majeure qui est de se poser à quel moment on s'intéresse à la transmission. Et je pense qu'on peut se poser la question à tout âge.
Avec quelques jeunes aussi qui sont à l'antenne, hein, Marc. J'aimerais qu'on parle rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, de l'IFI. Alors, on sait que la transformation de l'ISF en IFI, ça a fait un peu mal en 2018. C'est pour les fondations uniquement, c'est ça, Jean-Baptiste Autric ?
Oui, seules les fondations peuvent recevoir des dons dans le cadre de l'IFI. Pour résumer, il y a trois types de réduction d'impôts qu'on peut avoir lorsqu'on fait un don à une structure d'intérêt général. Il y a une réduction d'impôt sur les sociétés si c'est une entreprise qui fait un don à un organisme. Il y a une réduction d'impôt sur le revenu si c'est un particulier qui fait un don. Et on peut, dans certains cas, envisager la réduction d'IFI, qui est plus intéressante d'ailleurs, puisqu'elle monte jusqu'à 75%, dans la limite de 50 000 euros, à condition que l'organisme puisse le recevoir. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Assurez-vous que le bénéficiaire de ce versement a la capacité de le recevoir. Et en l'occurrence, s'agissant de l'IFI, ce sont uniquement les fondations abrités ou reconnus d'utilité publique qui peuvent recevoir des dons au titre de l'IFI.
Merci beaucoup Maître Jean-Baptiste Autric de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste associé au cabinet d'Elsol, spécialiste en droit des associations et co-responsable d'un département au sein du cabinet, hein, organisation non lucrative et entrepreneuriat social. Merci Maître Alexis Leuché
d'avoir été
avec
vous.
Nous, notaire associé, membre de la Chambre des notaires du Rhône. Et merci à vous Marc Soulet, président d'RCF. Je vous laisse le mot de la fin pour finir cette émission.
Oui, juste un petit mot. Je dirais qu'au-delà des aspects techniques que nos amis ont développés, je voudrais tout simplement dire à nos auditeurs que donner, c'est joyeux. Voilà, c'est tout simplement penser à l'avenir, se dépasser, essayer de rendre le monde un peu plus fraternel. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire sur RCF. Et donc, quand on veut, on peut, et il suffit de demander conseil. Voilà, c'est mon petit mot de conclusion.
Et je rappelle aussi que pour aller plus loin, on peut aller sur rcf.fr, Marc Soulet, pour aller se renseigner sur la fondation et pour aller peut-être concrétiser tout ce que vous avez imaginé pendant cette émission pour aider RCF. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à Sylvain, Pascal, Catherine et Robin qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vous souhaite, avec un tout petit peu d'avance, un très bon week-end sous le soleil et on se retrouve lundi avec joie. On parlera des protestants qui vont envisager la mission et l'évangélisation en France à l'occasion d'un synode. On en parlera avec Pauline de Torsiac de 9h à 11h. Bon week-end à tous et bonne écoute d'RCF.